crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons un ensemble sculpté de la fin du XIVe siècle. Il s'agit des vestiges d'un calvaire qui était situé au centre du grand cloître de la chartreuse de Champmol à Dijon, en Bourgogne. Commenté par Philippe II, il est l'œuvre du sculpteur hollandais Klaus Schlüter. Erwin Panofsky disait qu'en Schlüter, il y a à la fois du Michel-Ange et du Bernin. Mais au fond, c'est l'historien de l'art Arthur Klein-Claus qui, au début du XXe siècle, en 1905, a été le premier à faire une monographie sur Klaus Schlüter avec l'approche d'une sorte de vision d'histoire sociale de l'art. Il restitue ainsi le lieu où travaillait Schlüter, le contexte économique de l'époque, lorsqu'il était au service du duc, et sa place particulière à la cour de Bourgogne. Voilà, Arthur Klein-Claus, donc, notre regardeur.
L'élaboration et l'exécution du monument durèrent 11 années. Du mois d'avril 1395 au mois de janvier 1406. Au premier abord, ce temps peut paraître long. C'est peu cependant si l'on considère les résultats obtenus. Et si l'on se rappelle que tout en travaillant au puits des prophètes, Schlüter luttait contre la maladie et ne négligeait ni les autres bâtiments de la Chartreuse, ni le château de Germolles. N'est-il pas étonnant que chacun des deux groupes de prophètes n'écoutait guère plus de 2 années de travail ainsi qu'on peut l'établir pièce en main? Et ce merveilleux exploit ne prouve-t-il pas que le maître imagier garda, jusqu'à sa dernière heure, les qualités de puissance et d'activité dont il avait donné l'exemple pendant le reste de sa vie? Malgré son ardeur passionnée pour le travail, il n'aurait cependant pu venir à bout d'une tâche aussi rude s'il n'avait trouvé dans son atelier des hommes capables de comprendre et de traduire ses intentions. Hannequin de Prindal travailla à l'image de la Madeleine. Jean de Reny tailla les moulures et les bases de la croix, dont Jean Hultz fit les écus armoriés. Mais il convient de mettre à part Klaus de Verve, plus étroitement associé que les autres à l'œuvre de son oncle, qui savait trouver en lui un auxiliaire souple et dévoué. Il le seconda dans l'accomplissement des anges, de la Vierge et du Christ, et peut-être même mit-il la main au dernier prophète.
Je reçois aujourd'hui Emmanuel Lenné, qui vit en Belgique, mais qui est une artiste française. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sculpteur, donc vous avez des relations avec Schlüter, ne serait-ce que parce que vous poursuivez cette tradition. Moi, j'ai commencé à voir votre travail lorsque vous faisiez des étranges objets qui évoquaient des plantes à l'intérieur desquelles se passait peut-être quelque chose. Puis ensuite, il y a eu ces grandes déstructurations, des sortes d'objets qui donnaient l'impression d'être des structures industrielles totalement déstructurées, réorganisées. Et depuis quelques années, vous travaillez sur une étrange mise en scène de vos sculptures que vous faites photographier. Ce sont les photographies qui sont les œuvres, comme des photographies de désordre de l'atelier qui renverraient à un curieux désordre intérieur. Et au fond, dans ces photographies, il y a une relation entre la sculpture et la réalité qui évoque peut-être quelques aspects de la relation entre les sculptures et la réalité à l'époque de Schlüter, à la fin du Moyen-Âge. Vous préparez en ce moment des expositions, je crois qu'il y en a une qui a un nom impossible, « Don't cheat me out of the fullness of my capacity ». Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel Lenné ?
Ne m'excroquez pas de l'entièreté de mes capacités.
C'est vous qui avez choisi ce titre ?
Non, en fait, ça vient de... C'est un peu un détournement d'un texte de Karen Arad, qui est une théoricienne américaine contemporaine. Et comme beaucoup de théoriciennes américaines, elle a plusieurs comme ça, spécialités qu'elle croise et qui lui permettent d'essayer de comprendre les rapports qu'on a avec la réalité. Et donc, elle est physicienne quantique et en même temps, elle s'intéresse à la conscience et au féminisme. Et donc, elle fait des rapports comme ça entre la physique quantique et les approches en fait artistiques de la réalité. Et donc, elle parle en fait de la dans cette, en tout cas dans ce passage qui m'a intéressée, elle explique que depuis longtemps, depuis Descartes, en fait, on a une espèce de doute quant à l'approche qu'on a de la réalité et toujours cette espèce de dichotomie entre la vision de l'esprit et le réel qui ne serait finalement approchable qu'à travers ce prisme-là.
Ce qui est intéressant parce que ça pose la grande question de la nouvelle réalité qui apparaît à la fin du Moyen-Âge et nous allons pouvoir en parler avec Christine Lanstremer, conservateur du patrimoine. Bonjour Christine.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes responsable de la collection des moulages au Musée des Monuments Français. Ces moulages sont beaucoup plus que de simples moulages pour nous aujourd'hui puisque ce sont des témoignages historiques d'œuvres qui parfois ont disparu et donc ils ont une sorte de valeur d'original en quelque sorte.
Pour certains d'entre eux, oui. La grande majorité des moulages a été réalisée avant la guerre de 14 et effectivement, de ce point de vue, certains originaux ont pu disparaître et beaucoup d'entre eux ont été très abîmés par la pollution et les altérations diverses. Donc c'est une collection qui était au départ une collection pédagogique, essentiellement pédagogique, et qui depuis a acquis d'autres valeurs, et notamment une valeur archéologique certaine.
Alors, donc vous pouvez voir cette collection extraordinaire, pour ceux qui ne la connaissent pas, au Musée des Monuments Français, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, à Paris, place du Trocadéro. Et je dois dire que c'est toujours un spectacle inouï de voir la reconstitution de ces grands portails de cathédrales, et justement, du Puy de Moïse, dont nous allons parler aujourd'hui. Vous préparez, je crois, une exposition sur Viollet-le-Duc ?
Absolument. C'est 2014 est l'année du bicentenaire de la naissance d'Eugène Viollet-le-Duc. Et la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en partenariat avec la médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, prépare une exposition dont le commissariat général a été confié à Jean-Michel Legnau, directeur de l'École des Chartes et grand spécialiste de Viollet-le-Duc.
Alors Viollet-le-Duc a des rapports, a des relations avec notre sujet d'aujourd'hui, puisque c'est un grand restaurateur et même parfois réinventeur, puisqu'il a parfois un petit peu exagéré, des grands monuments médiévaux. Pensons à Vézelay, Carcassonne et Notre-Dame de Paris, par exemple.
Absolument, ou le château de Pierrefonds, qui est peut-être...
est une vraie
le
création.
Summum, voilà, de la création. Mais j'ai vérifié, et en fait, Viollet-le-Duc ne s'est pas du tout intéressé à la chartreuse de Champmaul et au Puy de Moïse. Curieusement,
ah bon ? Curieux.
Très curieusement. Je n'ai rien trouvé.
L'œuvre que nous observons surgit dans ce difficile XIVe siècle, bouleversé par des saisons très complexes, des grandes sécheresses, des inondations, mais surtout par la guerre de Cent Ans qui épuise les ressources et affame les populations, et surtout peut-être la peste noire qui a tué un tiers de la population européenne. Et pourtant, dans ce contexte terrible, naît un art européen qui, d'Avignon à Paris, de Dijon à Prague, à Bruxelles, à Cologne, voit surgir un art raffiné, profond, un art de faste, à la fois expressif, virtuose et humain, qui est produit cette fois-ci par les cours ducales ou par les grands bourgeois, plus que par les grands chantiers ecclésiastiques du passé. Il n'y a peut-être plus les sommes nécessaires à construire de grandes cathédrales, mais il y a des œuvres civiles de très haut niveau et qui se déroulent à ce moment-là, qui sont réalisées à ce moment-là. Les images divines et humaines se rejoignent dans les représentations de ce style international de l'époque, comme si les personnages de l'histoire sainte s'étaient installés parmi nous et étaient des personnages comme les autres, parmi nous, dans un étrange réalisme. Et c'est à la fin de ce siècle difficile, dans ce brillant automne du Moyen-Âge, que surgit l'étonnant monument que nous allons considérer aujourd'hui, le Puy de Moïse, commandé par Philippe Le Hardy à l'immense sculpteur de la pré-Renaissance ou de la fin du Moyen-Âge, vous me le direz tout à l'heure, qui est Klaus Luther, et vous pouvez aller voir donc ce monument à Dijon, à l'emplacement de l'ancienne chartreuse de Champmol. Il est construit sur l'eau, c'est-à-dire sur une source de vie. C'est un calvaire hexagonal sur les pans duquel sont sculptées les statues grandeur nature, même un petit peu plus, de 6 prophètes qui tiennent chacun un extrait de leur prophétie qui annonce le martyre de Jésus. Et c'est là le soubassement d'un calvaire, c'est une construction théologique en fait, l'Ancien Testament qui soutient le Nouveau Testament et qui à l'origine portait le crucifié et un ou quelques des personnages de cette terrible scène. Je dis un ou quelques personnages parce que c'est débattu par l'historien, on ne sait pas s'il y avait seulement Marie-Madeleine ou bien Marie-Madeleine, Jean et la Vierge. Les 6 prophètes sont représentés avec un grand réalisme et parmi eux, la figure de Moïse surgit véhémente. Huysmans, qui a décrit le puits de Moïse dans un roman qui s'appelle L'Oblat en 1903, le caractérise ainsi. Il parle de Moïse. La tête était chevelue, énorme, avec le front renflé en guise de corne, de 2 bosses, ridé d'accent circonflexe au-dessus de l'œil qui clignait, dur, presque insolent, la barbe bifide roulant sur les joues, tombant en 2 énormes coulées sur la poitrine. C'était, dit-il, un personnage qui semblait écouter les excuses embarrassées des tribus coupables, prêt moins à pardonner qu'à châtier cette tourbe qu'il savait apte à toutes les défections, à toutes les idolâtries, à toutes les hontes. Étrange description, évidemment, de Moïse. Emmanuel Lenné, vous avez observé ce puits de Moïse. Est-ce que vous le connaissiez ?
Non, je ne le connaissais pas. Je l'ai observé...
Vous n'avez pas vu au Musée des Monuments Français ni à Champmol.
En vrai, je l'ai toujours vu en image. En fait.
Ouais. Donc, mais déjà impressionnant.
J'ai jamais eu l'occasion de tourner autour.
On se rend compte de la réalité de ces 6 personnages qui sont très intenses et aussi de la construction symbolique. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent concerner un artiste d'aujourd'hui quand on regarde ce puits de Moïse ? Un artiste comme vous ?
Moi, j'ai toujours été fascinée de toute façon par cet art gothique et pré-Renaissance. Mais c'est certainement, enfin, en tout cas pour moi, je sais pas pourquoi, mais c'est la façon dont les personnages comme ça, justement extrêmement expressifs et réalistes, sont imbriqués dans ces architectures abstraites finalement, dans ces espèces de formes géométriques et la façon dont on a l'impression que c'est des machines mentales en fait qui sont prêtes à se mettre en mouvement. Et à faire fonctionner peut-être la mémoire en fait du regardeur avec quelque chose peut-être de très sensible et empathique comme ça avec l'expressivité des figures et en même temps ces formes géométriques abstraites presque psychédéliques en fait moi ça me fait penser à une espèce de psychédélisme mélangé avec un art réaliste et qui pourrait faire fabriquer des...
Effectivement, on est dans une construction symbolique très mentale. On sent que c'est une construction très mentale, et pourtant, les personnages apparaissent avec une grande puissance et semblent s'interroger les uns les autres. L'artiste a fait attention à ce qu'il y ait une relation entre les uns les autres. Il y a peut-être une influence de la peinture dans ce travail. Et il y a je crois que, d'ailleurs, dans le contrat de Claus Luther, on l'appelait un imagier. Et donc, c'est une sculpture d'image, par certains côtés. C'est assez curieux. Et vous qui êtes sculpteur, mais qui montrez les images de vos sculptures comme œuvre, c'est curieux aussi, il y a une relation de ce point de vue-là.
Tout à fait, mais moi j'ai commencé, je suis arrivée aux arts par la peinture. Et donc je pense qu'il y a vraiment la complexité comme ça qui revient dans mon travail et qui vient probablement aussi de l'image. Et puis je pense qu'on est de toute façon maintenant à une époque où tout est image, et même en tant que sculpteur, la majorité des informations qu'on a sur les formes qui nous entourent viennent de l'image.
Oui,
c'est-à-dire qu'on, en fait, on passe par l'écran, et peut-être que eux passaient par la fenêtre, mais nous on passe par l'écran, et donc peut-être qu'il y a à nouveau ces histoires de perspective et puis de monde virtuel dans lequel on projette et qui étendent notre réalité, qui probablement sont assez voisines de ce qui pouvait se passer à cette époque-là, qui sait.
Qui sait ? Alors, Christine Lancestremer va peut-être nous le dire. Mais auparavant, je vais vous poser cette question très simple. On dit que Sluter a réalisé le puits de Moïse. Au fond, ce n'est pas tout à fait exact. Il l'a probablement conçu dans sa totalité. Mais était-il seul ? Comment a-t-il collaboré ? Il y avait des peintres, d'autres sculpteurs ? Comment ça s'est fait, cette commande ?
Alors en fait, Sluter arrive à Dijon en 1385, à une époque où le sculpteur du duc est un autre sculpteur qui s'appelle Jean de Marville. Et puis, donc ils travaillent, ils collaborent un temps tous les deux, notamment à la sculpture du portail et de la chapelle.
Je vous demande pardon, il arrive à Dijon, mais il vient d'où ?
C'est très mystérieux.
De Flandre,
il est né sans doute, il est né dans les Pays-Bas. à l'époque, puisqu'on ne parle pas, de Hollande. Et la seule trace qu'on ait, on ne connaît pas la date de sa naissance. On a posé l'hypothèse qu'il était né dans les années 1340 ou 1350, ce qui voudrait dire qu'il est déjà relativement âgé lorsqu'il arrive à Dijon, et d'autres hypothèses tentent d'essayer de prouver qu'il serait, enfin, qu'en fait, il serait né plutôt dans les années 1360 et que donc il serait arrivé à Dijon finalement assez jeune et en pleine possession de ses moyens, que finalement sa mort assez rapide en 1406 serait plus liée à la maladie qu'à la vieillesse. La seule trace qu'on ait de son activité professionnelle antérieure, c'est son passage à Bruxelles dans la corporation des maçons et des sculpteurs en 1379-1380.
Il aurait travaillé à la façade de l'hôtel de ville de Bruxelles.
Voilà, mais c'est juste une mention dans les comptes de la corporation qui est une interprétation. On a vraiment très 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 peu de choses. C'est aussi finalement le premier temps du Moyen-Âge où les artistes ne sont plus anonymes. On commence à avoir des noms. On sait miraculeusement qui est intervenu sur le chantier de la chartreuse de Champmolle 50 ans auparavant. On n'a presque aucun nom pour les artistes.
Alors, je suis content parce qu'Emmanuelle Lenné est ravie. Elle sait que Slutter était à Bruxelles. Elle y est aussi. Vous êtes la descendante de Slutter, en quelque sorte. Et vous aurez peut-être la même influence sur la cour européenne que Slutter l'a eue sur la cour de Bourgogne. Puisque, en fait, on associe en général l'ensemble de l'art bourguignon, cette période-là, de l'art de la sculpture bourguignonne à Slutter, sinon directement, au moins sous son influence.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que donc, à la mort de Jean de Marville, en 1389, il devient le sculpteur du duc. Le sculpteur en titre, ce qui lui donne une véritable assise sociale, un logement, le sceau du duc pour faire un certain nombre de commandes. Et il est évident qu'il ne travaille pas seul. Il est non seulement le sculpteur du duc, mais il va également devenir le maître d'œuvre de la chartreuse de Champmolle sur toute la période qui va précéder son décès en 1406.
Alors, peut-être un mot sur la chartreuse de Champmolle. Pourquoi c'est un bâtiment important? C'est parce qu'il n'en reste pratiquement rien, mais c'était un bâtiment très ambitieux, non?
C'était un bâtiment très ambitieux. C'est une fondation du duc Philippe le Hardi en 1385. Dans l'idée d'une dévotion, on est quand même dans un siècle encore très religieux, surtout effectivement après la grande peste. Et il décide de créer cette fondation qu'il va confier à l'ordre des Chartreux, une fondation pour 24 Chartreux. Et c'est un bâtiment qu'il va doter avec une richesse exceptionnelle, donc à la fois pour les travaux, l'architecture, tous les décors, et par la suite, jusqu'au XVIe siècle, la Chartreuse sera un des endroits les plus riches en termes d'œuvres d'art, de tableaux, d'orfèvrerie, de vitraux qui puissent
s'imaginer. Est-ce qu'on peut dire que la Chartreuse était, pour Philippe le Hardi, donc pour la cour de Bourgogne, pour la deuxième grande famille des ducs de Bourgogne, puisque la première était capétienne, celle-là est Valois, en fait, eh bien, est-ce qu'on peut dire que c'était l'équivalent de Saint-Denis pour la Bourgogne?
Alors, on a dit qu'effectivement, la Chartreuse de Champmolle pouvait être la nécropole des ducs de Bourgogne. De fait, les trois premiers, donc Philippe le Hardi, Jean sans peur et Philippe le Bon, sont enterrés là-bas. Néanmoins, l'église, la chapelle de la Chartreuse n'est pas un très grand édifice et il n'est pas sûr qu'il ait été envisagé sous cet angle-là par Philippe le Hardi. Son tombeau à lui, oui, c'est évident, il le commande pour l'installer à cet endroit.
Alors, il commande le tombeau à Slutter, qui réalise une figure qui est très connue. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont peut-être cette image en tête, qui est celle des deuillants, comme on dit, ou des pleurants. On dit deuillants ou pleurants, peut-être les deux sont acceptés, je ne sais pas.
Oui, je pense, oui, les deux sont acceptés. C'est un cortège de moines, effectivement, qui contournent le tombeau. Ils sont une quarantaine et qui... Tous différents, tous avec des expressions d'affliction, évidemment, puisqu'il s'agit d'un cortège funéraire, entourent la dalle sur laquelle est posé le gisant du duc.
Voilà, c'est assez curieux. Je ne sais pas si vous avez vu Emmanuelle Lenné, ses pleurants, mais ils sont quasiment abstraits aussi. Certains sont très réalistes, mouches par exemple, mais d'autres sont totalement ensevelis sous le drap et deviennent de simples formes abstraites. N'est-ce pas? C'est curieux, dans votre travail, par exemple, je trouve que très souvent, on a l'impression qu'il y a un dedans qui est refusé. Est-ce que ça a une relation...
Vous voulez dire...
Mais qui reste mystérieux.
Un dedans, comme un sens, peut-être, alors, ou comme quelque chose à déchiffrer.
Peut-être.
Peut-être, effectivement, je... depuis en tout cas que peut-être le travail s'est tendu à l'image. Effectivement, peut-être qu'il y a une difficulté à comme ça à rentrer à l'intérieur, à le pénétrer. Je sais pas, c'est peut-être ce que vous vouliez dire. Je sais pas. Je suis.
C'est compliqué, ma question.
C'est une question compliquée, ouais. Oui. J'avoue.
Vous voulez dire quelque chose, Christine?
Pardon, la sculpture, c'est quand même, enfin, jusqu'à une période beaucoup plus récente qui commence peut-être avec Rodin, mais c'est quelque chose qui n'est qu'une approche par l'extérieur, surtout dans la taille, enfin là c'est vrai pour le Puy de Moïse, mais la taille de la pierre est un processus où on ne fait que retirer de la matière. Il ne faut jamais en retirer trop et finalement on n'accède jamais à l'intérieur. Il y a toujours cette partie en dur, j'allais dire, qui est totalement inaccessible. C'est un peu différent pour le modelage. Ou pour d'autres
alors, il y a quelque chose qui est très impressionnant dans le Puy de Moïse, c'est l'attention extraordinaire donnée aux vêtements. C'est-à-dire qu'il y a une attention à toute la partie ornementale du personnage qui est habillé comme un contemporain de Sluter, qui est habillé comme un personnage du XIVe siècle. Et la virtuosité du sculpteur s'exprime très largement dans la générosité de ses plis qui vont peut-être frapper Emmanuel Lainé.
Oui, bah le pli, le drapé, c'est un petit peu le, je sais pas comment dire, la figure de style, enfin le motif le plus complexe, le plus difficile de la sculpture.
Continuer à habiter la sculpture pendant la période baroque, par exemple, c'est du point ça, de vue qui va devenir de plus en plus majeur, quasiment au point d'avoir une vie indépendante, jusque au Rodin de Balzac, peut-on dire, dont la robe de chambre devient une métaphore de la puissance et de l'esprit du personnage. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et en ce sens, considérer Sluter comme un artiste de la Renaissance ou un pré-baroque, on l'associe souvent au Bernin ou à Michel-Ange comme un précurseur. Christine Lanstromer, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense, pour moi en tout cas, dans le sentiment que je peux ressentir à regarder les sculptures de Sluter, pour moi c'est un sculpteur gothique. Et cette attention apportée au drapé, au pli, au volume en fait, apporté par le vêtement, c'est finalement la continuation d'un motif de la sculpture médiévale qui ne fait que croître et embellir depuis les statues-colonnes de Notre-Dame de Chartres, par exemple, dont les robes sont tellement longilignes, avec des plissés qui épousent absolument le corps, jusqu'au grand développement des drapés qui peuvent s'envoler dans la sculpture de la fin du Moyen-Âge en Allemagne par exemple et encore effectivement à l'époque baroque. Ce qui à mon avis peut rapprocher Sluter de Michel-Ange ou du Bernin, c'est en tout cas de Michel-Ange, c'est vraiment la force expressive, c'est-à-dire que certes il y a tous ces vêtements, ces détails infiniment luxueux, mais ils ne font jamais oublier la présence extrême de ces personnages.
Il n'y a pas de personnage Emmanuel Lainé dans votre travail, où cela arrive, où est-ce qu'ils sont, furtifs, où est-ce qu'ils sont virtuels?
Non, il n'y a pas de personnage, en fait, ils sont partis déjà, ils brillent par leur absence. En fait, moi, maintenant, j'ai tendance à appeler les compositions des natures mortes, donc ça fait vraiment, effectivement, plutôt référence à une période baroque. Et ils ont des natures mortes expérimentales, c'est-à-dire que les objets posés là sont des résultats d'une action qui a eu lieu dans un espace fermé sur lui-même et dont ils sont la trace, voilà. Donc,
quand vous regardez ces personnages de la chartreuse de Champmol, les personnages de Sluter, vous pouvez en tirer quelque chose pour votre travail?
Je sais, en fait, je vous avoue que je suis pas extra spécialement sensible à l'expressivité ou au réalisme. Je suis peut-être, j'ai plutôt tendance à m'intéresser à la façon dont ils s'imbriquent et à la façon dont ils symbolisent en fait ou dont ils condensent.
Parce qu'il y a un aspect, Emmanuel Lainé, qui, à mon avis, est assez curieux et intéressant pour vous, qu'on peut voir dans le travail de Sluter sur le portail de la Chartreuse de Champmol, c'est-à-dire la présence des donateurs, Philippe Le Hardy et Marguerite, je crois,
De Bourgogne.
De Bourgogne, et qui sont à genoux, qui cassent complètement la construction traditionnelle avec des voussures habitées par des centaines de personnages, comme on le faisait quelques années auparavant, et qui regardent l'un et l'autre, accompagnés de leur saint protecteur, la Vierge qui est au centre. Et au fond, ils cassent complètement l'architecture et s'installent comme des personnages réels, comme des objets réels dans une image. L'architecture devient une image du paradis, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'à cette époque-là, je suppose, le rétable a tellement d'importance, une sorte de théâtre illusionniste, et ce théâtre illusionniste, c'est le rapport à l'image et à la peinture. Est-ce qu'il y a un rapport à la peinture qui est connu dans le travail des sculpteurs de cette période-là ?
Absolument, dans la mesure où toutes les sculptures, enfin pas les sculptures du portail d'ailleurs, mais les sculptures du Puy de Moïse étaient intégralement peintes, et leur mise en couleur qui est qualifiée dans les contrats de peinture comme au vif. C'est-à-dire qu'une partie du réalisme de ces figures vient non seulement de la conquête du volume, en fait, qui a été très lente et très progressive et assez difficile au cours du Moyen-Âge, mais elle vient aussi de tout ce qui est apporté par la peinture. Et en général, ce n'est pas simplement des aplats de couleurs comme on pourrait l'imaginer, mais ce sont vraiment des sculptures qui sont peintes. Et en l'occurrence, pour le Puy de Moïse, on connaît le peintre puisqu'il s'agit de Jean Malouel, qui est un peintre connu, flamand également.
C'est quasiment l'inventeur, bien que flamand, de la peinture française, peut-on dire. Voilà. Hein. Donc on va écouter, on va reparler de cet immense artiste Malouel qui a participé à la construction de ce Puy de Moïse. On va réécouter auparavant Arthur Klenklaus nous parler de l'iconographie de cet extraordinaire sculpture.
La scène qui se jouait à la chartreuse de Champmolle, lorsque le puits était encore intact, était celle de la Passion, mais elle ne se déroulait pas sous sa forme ordinaire. Elle avait été conçue à la façon d'un mystère. La source d'eau vive, approfondie pour y planter la croix, symbolise la régénération de l'humanité lavée dans le sang du Christ. Les anges pleurent suivant le verset d'Isaïe, fréquemment cité par les sermonnaires et les dramaturges de la Passion. Angelis, Paxis, Amare, Flebunt. Les prophètes sont des juges qui viennent de prononcer un arrêt, celui qui s'exécute au-dessus de leur tête. Les paroles écrites sur leur phylactère et qui se retrouveront un peu plus tard dans le texte d'un mystère et d'une moralité française sont des sentences de mort. C'est donc un drame de pierre. Un jugement de Jésus qui a été représenté là. Et ce fut à coup sûr un drame bien joué. Les anges aux têtes bouclées, jolies et joufflues, charmants dans leurs longues robes brodées, pleurent avec naïveté. L'un d'eux croise tristement ses bras sur sa poitrine, d'autres joignent leurs mains ou essuient leurs yeux. Mais le Christ atteint au sublime. Le Christ est mort et ses yeux sont clos. Mais sa divine beauté ne se trouve point atteinte. Ses longs cheveux tombent en deux masses du sommet de la tête sur les épaules, et une barbe courte encadre son visage régulier, au nez mince, au front penché. Le Christ est beau, et il est bon. La couronne d'épines le blesse encore, et son flanc droit saigne du coup de lance qu'il a brutalement ouvert. Mais dans la mort qu'il a frappée, il garde une douceur infinie, celle de la victime qui a pardonné à ses bourreaux. Et ce calme dans l'au-delà contraste avec l'agitation des juges restés à ses pieds et qui cherchent dans leurs livres l'excuse de leurs mauvaises actions.
Christine Ancestremer, nous entendions il y a un instant le grand historien Arthur Klenklaus décrire le Puy de Moïse de Klaus Luther à Dijon, et il évoquait une figure qui ne fait plus partie de l'actuel Puy de Moïse, qui est la figure du Christ qui se trouve maintenant, je pense, au musée de Dijon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a disparu? Quelle était la structure générale de ce puits?
Donc le puits de Moïse porte ce nom parce qu'effectivement, de façon coutumière dans les chartreuses, au milieu du grand cloître, il existe un puits. Forcément, l'eau était nécessaire. Et donc, Klaus Luther décide d'installer au milieu de ce puits le grand calvaire, qui est également l'ornement habituel du cloître d'une chartreuse. Et donc, l'innovation consiste à installer ce grand pilier hexagonal,
en effet.
Au milieu de cette fontaine. Et en même temps, le puits de Moïse n'est que le support d'un calvaire, donc une scène représentant le Christ mort. Cette partie supérieure du puits de Moïse a disparu à la fin du XVIIIe siècle, peut-être à l'occasion de l'effondrement de l'édicule qui protégeait l'ensemble de la construction. Il n'en subsiste aujourd'hui que le torse du Christ, ses jambes, et ce qui a été interprété comme étant les bras croisés de la Madeleine autour du pied de la croix, en fait.
Voilà, et il y a des débats pour savoir si au pied de cette croix, qui d'ailleurs a été la première partie érigée par Sluter, il y a eu d'abord la croix qui a été installée et inaugurée, et ensuite Sluter a fait les prophètes qui se trouvent donc au pied, les 8 prophètes qui se trouvent au pied, et donc il y a un débat pour savoir si au pied de la croix il y avait seulement Marie-Madeleine ou bien s'il y avait aussi la Vierge et Saint-Jean. Alors les historiens ne sont pas d'accord, vous avez une thèse personnelle ?
Non, je n'ai pas de thèse personnelle. Il est vrai que si on a retrouvé 2 bras de Marie-Madeleine et 2 morceaux du Christ, on peut s'étonner de n'avoir rien retrouvé d'une Vierge et d'un Saint-Jean éventuel. Maintenant, il est très rare d'avoir des calvaires avec... Enfin, il est assez rare d'avoir des calvaires avec uniquement Marie-Madeleine, donc je pense que c'est un débat qui ne doit jamais se clore quelque part.
Il y a, Emmanuel Lenné, donc dans cette structure, quelque chose qui ressemble à une installation. Au fond, installer un calvaire au cœur d'une fontaine pour montrer le sens de l'eau vive, n'est-ce pas, comme source de vie éternelle. Hein, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. C'est cela que signifie évidemment cette installation. D'installer ensuite les prophètes qui chacun, avec un extrait, un phylactère qui à chaque fois décrit la passion du Christ, des anges qui soutiennent le Golgotha et la crucifixion au-dessus. Il y a une sorte de système anagogique de correspondance comme ça qui ressemble à des installations contemporaines.
Oui, tout à fait.
Je me souviens d'une œuvre que vous avez faite qui ressemble à une sorte de housse ou de capot, de boîte pour contenir quelque chose qui pourrait être un instrument de musique. Et en fait, on a une image mentale de ce qu'elle contient sans être tout à fait sûr. C'est comme s'il y avait de l'immatériel qui était important de faire apparaître avec vos sculptures.
C'est toujours assez compliqué finalement de se mettre à la place du regardeur, même si c'est le regardeur qui fait l'œuvre.
C'est ce qu'on dit.
Moi, je travaille beaucoup dans une perte comme ça dans un laisser-faire de la signification qui effectivement est peut-être aux antipodes de finalement ce que la sculpture gothique à cette époque était très construite, où les significations comme ça étaient mises en place de façon hiérarchique et puis architectonique.
Parce que vous avez raison, c'est composé comme un texte. Et vous...
Mais c'est pour ça que c'est fascinant, c'est pour ça moi que ça me fascine en fait complètement, c'est que je trouve que c'est en fait d'une virtuosité et puis d'un certain comme ça raccourci entre les différentes formes, réussir à encastrer comme ça toutes ces figures dans une forme aussi homogène et les faire tourner comme ça en travaillant le point de vue et l'effet, parce que je pense qu'il y a vraiment tout un quelque chose qui est fait sur l'effet que doivent produire en fait ces sculptures sur le regardeur, qui est fascinant et effectivement et qui est peut-être, je trouve, peut-être lié à une époque ancienne. Et je ne sais pas si on a encore ça, si cette chose-là est encore
si développée.
Ça m'intéresse
ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous laissez entendre qu'aujourd'hui, et pourtant quand on regarde Marcel Duchamp, c'est assez différent, aujourd'hui il y aurait une sorte de liberté laissée à la construction de la signification.
Tout à fait.
Alors qu'on avait l'impression que l'art conceptuel, c'est le contraire.
Peut-être que ce serait une déconstruction de signification et donc et on laisserait au regardeur la liberté de, à partir de cette déconstruction, reconstruire sa propre signification, alors que peut-être à l'époque, j'ai l'impression qu'il s'agissait plus d'architecture de mémoire pour réactiver une histoire qu'on était censé connaître. Et en fait, par empathie et par différents moyens donc d'expressivité et en même temps d'abstraction, relancer en fait la machine de spirituelle. Et moi, je trouve ça extrêmement fascinant, en fait. C'était, je sais pas, j'ai entendu parler de quelque chose qui m'a fascinée, qui fascine beaucoup les artistes, dont on parle un peu à propos de l'art gothique, c'était l'art de la mémoire, et l'art des palais de mémoire, qui était quelque chose qui avait été inventé comme ça par les Grecs et les rhéteurs, et qui était une technique de mémorisation, en fait, dans laquelle il fallait inventer comme ça des architectures mentales, dans lesquelles on plaçait des objets, et puis des scènes comme ça extrêmement troublantes, le plus troublantes possible, comme ça, pour frapper la mémoire, et dans laquelle on venait après disposer ses souvenirs. Et qui
oui,
était
c'est
comme
ce
ça.
Qui permettait aux rhéteurs de se souvenir des différentes parties de leur discours et en associant chacune des parties de la salle dans laquelle ils se trouvaient, par exemple, à une des phrases qu'ils doivent dire. Ils pouvaient suivre tout le ces théâtres de mémoire sont effectivement très structurants pour cette période. Ils ont été ressuscités à la Renaissance, évidemment, et c'est quelque chose de très, très passionnant. Et c'est vrai que c'est une construction théologique absolue, ce puits de Moïse.
Absolument. En même temps, ce sont des thèmes, la mise en relation à peu près systématique de l'Ancien Testament, enfin de l'Ancienne Loi et de la Nouvelle Loi, ici dont la transition est assurée par les anges. C'est un thème qui est exploité depuis déjà fort longtemps au Moyen-Âge. Et ce qui est assez extraordinaire dans le cas du Puits de Moïse, c'est la façon dont finalement Slüter arrive à rendre perceptible dans l'espace ce passage de l'ancienne à la nouvelle loi. On l'avait au portail des cathédrales, mais c'est vrai que la façon dont ces six personnages extrêmement massifs, ils font environ 1m80 chacun, donc ils sont vraiment grandeur nature, voire un peu plus, finalement, au-dessus, ces anges avec les ailes déployées qui viennent augmenter d'une certaine façon la surface pour porter le Golgotha sur lequel enfin on pouvait admirer le calvaire. C'est une mise en espace de ce thème qui est assez extraordinaire aussi. Et de ce point de vue, la construction, il y a évidemment une fonction théologique, iconographique très, très évidente et très nécessaire à l'époque, mais le génie consiste aussi dans la façon de le mettre en espace. Et là, je pense que c'est un acte qui est peut-être plus contemporain que la simple représentation iconographique de cette scène.
Alors, il y a un message théologique que vous venez de rappeler, qui est effectivement celui-ci, mais il y a aussi un message politique. Parce que, semble-t-il, Jérémie serait représenté avec les traits de Philippe, le hardi. D'ailleurs, à tel point qu'on avait, comme l'avait Philippe le Hardi, on avait rajouté, Slüter a commandé des lunettes en cuivre à remettre sur, qui ont disparu évidemment, mais...
Elles ont disparu, mais on a la facture dans les comptes.
On a la facture, voilà. Il y avait également un diadème sur la tête de Marie-Madeleine qui a été retrouvé, et chacun de ces personnages, vous le rappeliez tout à l'heure, était extraordinairement peint, c'est-à-dire très réel, et à côté de Jérémie, représentant soi-disant Philippe le Hardi, il y avait l'autre prophète, le habillé en roi, qui est David. Qui est David. Et évidemment, c'est les deux personnages, les deux branches royales de la France à cette époque-là, associés l'un à côté de l'autre, distincts, et pourtant se manifestant d'une certaine façon leur suprématie sur le monde temporel.
Oui, c'est-à-dire que Philippe le Hardi est un des frères de Charles V. C'est également le frère de Jean de Berry. Donc tous ces grands princes vont chacun de leur côté avoir leur propre cour et leurs propres artistes et développer des foyers artistiques de mécénat absolument extraordinaires. C'est aussi l'époque des armes parlantes. Et ça n'est pas le cas sur le Puits de Moïse, mais sur
vous
le portail.
Vous pouvez préciser les armes parlantes parce que
donc les armes
on
parlantes,
s'imagine un mousquet parlant alors que vous parlez en fait d'un aspect héraldique.
Ce sont des motifs qui sont sculptés, là, en l'occurrence, sur différentes parties du portail de la chapelle de la Chartreuse et qui vont renvoyer aux emblèmes du duc ou de la duchesse. Donc, il y a, par exemple, sur le socle de la Vierge du Trumeau de la chapelle, des petits M et des petits P pour Philippe et Marguerite qui vont venir s'entrecroiser. Et en fait, c'est un motif très graphique. Et si on ne fait pas attention, c'est juste un très joli motif. Mais en fait, c'est P pour Philippe et M pour Marguerite. De même, il y a un certain nombre de symboles, d'animaux, par exemple, qui renvoient à la famille royale, au duché de Bourgogne, et donc qui sont politiquement interprétables par les contemporains.
Est-ce que c'est un unicum, ce puits de Moïse ? Est-ce que c'est un événement dans sa force, son ambition, assez rare dans l'histoire de la sculpture de cette période-là ? Je sais qu'on le retrouve, on le retrouve représenté dans les enluminures.
Moi, je connais rien d'équivalent, en fait. À la fois, je pense qu'il y a une forme de perfection, en fait, atteinte par Sluter à cet endroit-là, à la fois par le contexte politique, les moyens dont il dispose, qui sont absolument gigantesques, et la qualité, ses propres qualités de sculpteur à lui, qui font que non, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. Après, et finalement, cette œuvre est connue très tôt. Il y a une copie en pierre qui est réalisée au XVIe siècle, donc finalement assez rapidement après la réalisation de l'édifice. Et c'est pour revenir à la collection dont je m'occupe, c'est un des premiers moulages qui est réalisé pour illustrer le musée de sculpteurs contemporains.
Un véritable chef-d'œuvre. Vous le rappeliez tout à l'heure, Christine Lancestremer, cette œuvre était peinte par un des plus grands artistes de l'époque, Malouel, qui a deux tableaux admirables au Louvre, un Christ de douleur et une Pietà absolument merveilleuse. Il y a également, évidemment, le martyr de Saint-Denis, on pourrait en parler. Et Malouel a passé 2 ans à peindre ce puits de Moïse, qui veut dire que le peintre le plus fameux de l'époque passe 2 ans à travailler au service d'un autre sculpteur. C'est curieux comme collaboration. Est-ce qu'Emmanuel Lenné, vous aimeriez ce genre de collaboration ?
Oui, bien sûr.
Vous peignez vos sculptures ?
Non, mais j'y pense, en fait. J'y pense beaucoup.
On pourra dire que le puits de Moïse vous influence ?
Tout à fait, oui. Non, mais oui, c'est tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire peindre une sculpture ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'idée de réel et d'irréel ?
C'est peut-être un peu étrange, mais peut-être que je pense que à notre époque, peindre une sculpture, ce serait peut-être à la limite comme à la manière de la vie, en rajouter une couche d'artifice, alors que peut-être à l'inverse, à l'époque, c'était arriver à quelque chose de très finalement de très illusionniste. Moi, peindre une sculpture, oui, ce serait vraiment
lui enlever de la réalité,
ou lui rajouter une couche d'interprétation, en fait, lui donner encore plus de peut-être de volume et de présence en même temps que d'artifice.
C'était courant de peindre les sculptures à cette époque-là ?
Oui, c'est extrêmement courant. Et on a des exemples. Alors, souvent, les polychromies sont très abîmées. C'est le cas d'ailleurs du puits de Moïse, dont il reste des choses, mais finalement, de façon très, très lacunaire par rapport à l'état initial.
Elle était bien restaurée quand même.
Elle a été bien restaurée.
Avec finesse, et il y a pas mal de traces.
Oui, tout à fait. Et quand on voit dans le détail, mais on imagine. En fait, c'est les dorures qui ont disparu. Et de ce point de vue, c'est vrai que la polychromie, alors peindre comme au vif, oui, ça vaut surtout pour les carnations, les regards. On a des choses extrêmement subtiles qu'on peut retrouver au puits de Moïse, mais aussi dans d'autres sculptures, 14e, 15e notamment. Mais ça n'est pas si réaliste que ça, notamment par la présence de la dorure. Là, on achète les feuilles d'or par carnets entiers pour dorer notamment toute la croix entièrement du calvaire. Et donc, de ce point de vue, ça n'est pas si réaliste que ça. Ça n'est pas le reflet de la réalité telle qu'on peut la voir en dehors. C'est quand même le monde céleste.
Est-ce que lorsque vous faites, vous conservez dans ces moulages, on découvre qu'il y a une polychromie sur le puits de Moïse ? Enfin, on le savait, mais on la restaure. Est-ce que vous seriez tenté de restaurer ou de créer sur les moulages la polychromie qui existe sur l'original ?
Alors, c'est amusant que vous me disiez ça, parce qu'en fait, il se trouve que le moulage du puits de Moïse à la Cité est le seul exemple que nous ayons d'un moulage réalisé donc en 1881 et exposé tel quel en plâtre nu, enfin ton pierre, jusqu'en 1948. Et en 1946, une restauration du puits de Moïse a lieu à Dijon. Et le directeur du musée des monuments français de l'époque, Paul Deschamps, prend contact avec Pierre Carré, conservateur du musée de Dijon, et lui dit « J'aimerais beaucoup pouvoir envoyer ma patineuse, puisqu'il y a des patineuses, pour relever ce qu'on va trouver sur le puits de Moïse de polychromie et le faire reproduire sur le moulage. » Et donc nous avons aujourd'hui à la Cité un moulage qui reproduit le volume de 1881, la polychromie de 1948, Alors qu'aujourd'hui, le puits qui a été restauré dernièrement en 2002, présente une polychromie beaucoup plus vive et beaucoup plus visible qu'elle ne l'était en 1948. Donc c'est une possibilité, ça a été fait.
Oui.
La question d'ailleurs de donner au moulage, enfin, le moulage en plâtre produit un volume. La question de lui donner l'apparence de la sculpture originale est un débat qui a occupé de longues années au musée de sculpture comparée et qui a été tranché par Paul Deschamps, qui a choisi des polychromies ou en tout cas des patines illusionnistes.
Le style de Klaus Suter est monumental, mais il l'est, et cela le rend doublement admirable sans le contrôle ni le soutien d'une intention purement sculpturale, et moins encore d'une intention architecturale. Les particularités même de sa technique, l'attention accordée au rendu des matières, l'évitement des mouvements de rotation en faveur de l'immobilité, la multiplication des plis de draperie volumineux et profondément fouillés, servent un dessin qui est celui d'un peintre autant que d'un sculpteur. Toute la sculpture antérieure, même à l'apogée du gothique au milieu du XIIIe siècle, avait laissé le regard du spectateur s'attacher aux lignes et aux surfaces qu'elle lui présentait. Mais devant les œuvres de Suter, nous nous sentons contraints d'explorer les formes, de les sonder comme un chirurgien. Il semble que notre œil émette des rayons visuels qui pénètrent dans les profondeurs de cavités ombreuses où se trouvent arrêtés nets par des rotondités réfléchissant la lumière. Notre regard, au lieu de glisser le long des volumes, a l'impression de les attirer à lui, puis de les projeter sur un plan pictural imaginaire. Ainsi, la question de savoir si une figure en rotation décrivait un plan en S ou en C devient sans intérêt en comparaison de l'apparence optique qu'elle revêt dans l'espace. De Suter, on peut dire qu'il contient potentiellement à la fois Michel-Ange et le Bernin.
Impressionnant d'écouter cette musique extraordinaire qui fait sonner des instruments du Moyen-Âge, alors que ce sont des créations contemporaines qui utilisent cette puissance. Cette puissance, on la ressent fortement dans le puits de Moïse. Quand vous regardez ces personnages, vous ressentez, Emmanuel Lenné, la force comme ça que l'artiste a essayé de leur donner. C'est des sacrés volumes, hein, quand même.
Oui, ben c'est des grosses pierres. Devenu, comme vous disiez très justement, c'est vrai qu'il y a peut-être cette chose intéressante qui est le fait qu'on enlève comme ça et qu'on arrive à... Donc il y a vraiment une lutte avec le matériau comme ça, pierre, pour arriver à des formes fluides qui... Moi, je vous avoue que je suis toujours... j'ai toujours utilisé les matériaux souples et coulants. Donc je n'ai jamais eu ce rapport comme ça très... très difficile avec un matériau qui n'est pas censé avoir justement ces formes de drapé, mais je pense qu'on le ressent en tout cas.
Elles sont assez coulantes, ces formes de drapé. Il a réussi à donner une sorte de on sent presque le tissu.
C'est incroyable, effectivement.
C'est très virtuose. Hein.
Ouais, tout à fait.
C'est à un moment où, je pense, la conception philosophique de l'homme se transforme. On sent que le monde cesse d'être un monde de irréel, où le sacré s'incarne énormément dans l'humain. Qu'en pensez-vous, Christine Lancestre-Mère ?
On est quand même encore dans une société extrêmement religieuse. Après, c'est vrai que la grande peste, notamment, a beaucoup transformé le rapport à la mort et le rapport au corps.
La mort est un des grands thèmes de la fin du Moyen-Âge, hein, à cette période-là.
Et c'est vrai que le rapport au corps, au portrait aussi. Alors, le rapport au portrait, c'est plus quelque chose qui est lié au mécénat princier, parce qu'il faut quand même qu'on puisse reconnaître les personnages. Mais c'est vrai que c'est un des moments où la conception de l'homme évolue. Et en même temps, je pense qu'elle évolue d'une manière assez continue.
On caractérise parfois cette période de préhumanisme. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ? Est-ce que vous pensez que c'est juste ?
Oui, c'est juste parce que c'est une période d'échanges intellectuels, d'échanges culturels aussi très très intenses. Vous l'avez dit tout à l'heure, les artistes voyagent, ils viennent d'Italie, ils viennent de Flandre, ils viennent d'Allemagne, ils vont circuler un petit peu partout. Ça n'est pas une nouveauté, mais c'est un moment où les choses s'accentuent beaucoup. Les textes antiques commencent à recirculer aussi, à être traduits, à être étudiés.
On va assister au début du livre, hein. On est à quelques années près. Ouais.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est quelque chose... On dit souvent que le monument, aujourd'hui, n'a plus de sens et qu'il y a un aspect, que le côté commémoratif, comme ça, est devenu ringard, comme on voyait. Est-ce qu'on peut faire une œuvre monumentale, alors si ce n'est un monument, au moins une œuvre monumentale, et quelque chose qui est toujours intéressant comme défi?
Moi, j'ai l'impression de vivre dans un espace qui est tendu par les techniques de la représentation virtuelle, et que du coup, peut-être que l'espace réel, autant T comme ça, et on n'a plus autant besoin peut-être de poser comme ça des sculptures dans un point P à un instant T, qu'on avait peut-être besoin à des époques comme ça, peut-être de la Renaissance et puis après de la Révolution industrielle et tout ça. J'ai l'impression que la représentation est en train de passer, et je pense qu'un monument, peut-être, ça pourrait être quelque chose qui existerait simultanément dans plein d'endroits. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, ce qui me plairait peut-être de faire exister, ce serait plutôt ça, et une monumentalité distribuée. Permettrait peut-être d'avoir quelque chose qui serait peut-être aussi fort à la limite que ce qu'on pouvait avoir à l'époque où la sculpture était unique. Et je ne sais pas si on est encore dans cette époque, peut-être.
Probablement pas. Écoutez, Christine Lancestremer, je me demandais comment était conçu le puits de Moïse par rapport à l'environnement dans lequel il se trouvait. Au fond, c'était dans une chartreuse, c'est-à-dire des moines méditatifs, travailleurs et silencieux, qui toute la journée devait dire les psaumes de David et qui devait, j'imagine, tourner autour de ce monument, qui d'ailleurs était peut-être dans un cimetière de Chartreux.
Oui, le grand cloître servait de cimetière au Chartreux. Donc le puits de Moïse, enfin le calvaire en fait, puisque... C'est un calvaire, fondamentalement.
Oui, on l'appelle le puits de Moïse, soyons clairs.
Parce qu'il ne reste plus que ça, mais c'est un calvaire. Et il servait, effectivement, il était là pour que les chartreux puissent en profiter, puissent le voir. Mais il était aussi là parce que la chartreuse était un lieu de pèlerinage. Et en fait, on est une époque où les indulgences, enfin, voilà, il y a tout un... pas un marché, mais enfin, quand même une piété très... parfois un peu comptable.
C'est-à-dire que le fidèle qui venait rendre hommage à la croix, au puits de Moïse, recevait en échange des indulgences, c'est-à-dire quelques jours de purgatoire de moins.
Il s'épargnait quelques jours de pénitence, oui.
Et il pouvait repartir avec une sainte ampoule pleine de l'eau du puits de Moïse. Donc, c'était un petit commerce, ça, aussi.
Ah oui, il y a un commerce, oui.
Voilà, mais c'était sûrement très roboratif, donc c'était bien.
Je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté.
Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment les chartreux vivaient avec ça. Parce que c'était un cimetière aussi, et que les chartreux étaient enterrés directement dans la terre, vous le savez, etc. Mmh. Je pense que c'était, au cœur de ce cimetière, le lieu de méditation sur la mort, au fond, et la résurrection.
Oui, enfin, le chartreux médite quand même beaucoup dans sa cellule. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de méditation collective, ni de méditation à l'extérieur. Il médite et il se retrouve essentiellement pour l'office, enfin certains offices dans l'église.
La position de chacun des prophètes par rapport à la circulation, à l'arrivée ou à la sortie était quelque chose de construit ou pas nécessairement, probablement? On ne le sait peut-être plus.
Probablement. On doit le savoir, je ne le sais pas, mais on doit pouvoir le savoir, parce qu'en fait, le puits n'a pas bougé. Donc, pour le coup, on sait exactement dans où était l'entrée principale, où était l'église. Il y avait sans aucun doute un sens et un ordre précisément défini, oui.
Oui.
Rien n'est vraiment laissé au hasard.
Il y avait on identifie, ils sont identifiés l'ensemble des prophètes qui sont là: Daniel, Isaïe,
Jérémie, David,
oui.
Moïse,
voilà,
et Zacharie, je crois.
Et Zacharie. Et il y a une sorte de curieuse relation entre les uns et les autres, c'est-à-dire qu'ils tentent de s'enchaîner en quelque sorte. C'est une sorte de ronde des significations au fond.
Oui, c'est-à-dire que les mouvements imprimés aux différentes personnages par Sluter donnent l'impression qu'ils peuvent converser les uns avec les autres, exactement comme les pleurants des tombeaux d'ailleurs, qui finalement ne sont pas statiques dans leur niche, regardant droit devant eux ou par terre, mais sont tournés les uns vers les autres, comme formant effectivement une sorte de chaîne sans fin, puisque l'hexagone d'un côté, le tombeau de l'autre, tout le monde se suit éternellement.
Alors Sluter travaillait dans un atelier avec peintres, tailleurs de pierre, compagnons qui l'aidaient à réaliser l'ensemble des choses. Il n'aurait fait que deux des prophètes, semble-t-il, le Moïse et David. L'ensemble aurait été fait par son neveu, mais conçu par lui, probablement supervisé par lui. Est-ce que cette idée de travailler en atelier, Emmanuel Lainé, c'est-à-dire avec des collaborateurs, quelque chose qui est juste, est-ce que ça correspond à ce qu'est la sculpture d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déléguer une partie de l'exécution?
Oui, bien sûr, ça se fait de plus en plus. J'ai peu délégué jusqu'à présent, mais je commence à y penser. Et j'ai l'impression que, à la limite, peut-être même les artistes travaillent peut-être à la limite comme on travaillait à cette époque, c'est-à-dire prennent les artistes contemporains prennent des jeunes assistants qui sont encore en train d'être en études dans leurs ateliers pour les aider sur leur chantier. Et donc, il y a presque un peu cette chose à l'ancienne, comme ça, de maître d'atelier avec ces jeunes disciples qui un jour prendront la place. Voilà.
Et on dira, cette œuvre a été faite par Emmanuel Lainé, mais elle n'a pu faire que le début. Voilà. Le reste a été fait par ses anciens collaborateurs, etc.
En fait, on ne le saura jamais vraiment.
Et donc, on annonce que Sluter préfigurerait Michel-Ange et le Bernin. Bon, ce sont toujours des rêveries d'historiens d'art, donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des artistes dont vous avez l'impression d'être à la suite? Est-ce qu'il y a des grands sculpteurs dont vous êtes l'héritière? Que regardez-vous, au fond?
En fait, il y a un artiste
qui vous inspire.
Qui m'inspire énormément et dont évidemment j'ai perdu le nom parce que je suis extrêmement...
En général, c'est toujours à ce moment-là
impressionnée par votre question. Je pense que je vais le retrouver d'ici là.
Vous allez
un Américain comme ça qui a eu une carrière en Europe et qui faisait des installations comme ça où il se moulait en fait le corps. Il faisait des grandes installations avec des pyramides comme ça, comme s'il avait été un dieu. Oh là là. Et en fait, c'est un art comme ça, très compliqué, très installatif comme ça. Il arrivait avec son équipe fabriquer ces installations géantes qui ont été. Et en fait, donc c'était un art finalement qui a beaucoup mieux marché en Europe parce que les catholiques ont été très sensibles à ce système de représentation justement qui était très théâtral.
Tout à l'heure, vous étiez plutôt un peu méfiante sur l'idée du monument, de la monumentalité. Finalement, vous parlez d'un sculpteur qui vous inspire et justement, il fait des sculptures monumentales.
C'est pas vraiment monumental en fait. C'est des accumulations comme ça d'objets. Oui, il y a quelque chose. Oui, effectivement, vous avez raison. Peut-être il y a une contradiction.
C'est très bien, les contradictions.
Je n'arrive pas à retrouver son nom, je suis vraiment désolée.
Christine Ancestremer, vous regardez l'art contemporain?
Oui, un peu.
Est-ce que vous trouvez que l'observation de l'art ancien qui vous entoure, avec lequel vous vivez, est une bonne introduction à l'art d'aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on peut dérouler, mais bon, c'est aussi ma formation, donc c'est assez... Pour moi, c'est une forme d'évidence que les choses se sont enchaînées et que rien n'est brutalement apparu sans lien avec ce qui a pu le précéder. Je pense qu'on peut dérouler assez facilement le fil d'une histoire continue, plus ou moins continue.
Et les artistes viennent vous voir? Les artistes viennent visiter le Musée des Monuments Français?
Certains artistes viennent nous voir, certains souhaitent exposer dans la galerie des moulages, parce que c'est un espace très, très monumental et très séduisant. On a un designer là, qui a fait une exposition qui s'appelle Nicolas Cesbron. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne bien. Nous avons beaucoup de jeunes artistes qui viennent dessiner aussi, et qui viennent dessiner de la sculpture ancienne.
Il me reste à vous dire merci. Merci beaucoup, Christine Lancestremer. Merci, Emmanuel Lainé.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une sculpture du Moyen-Âge, d'une extraordinaire sculpture du Moyen-Âge, le Puy de Moïse de la Chartreuse de Champmolles à Dijon, réalisé par l'immense sculpteur de la fin du Moyen-Âge, Klaus Luther. Vous pouvez voir le moulage du Puy de Moïse à Paris, au Musée des Monuments Français, ou vous pouvez voir l'original à Dijon, dans la Chartreuse de Champmolles. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Pendant l'émission, vous avez pu entendre les musiques de Jean-Luc Guillonnet et Peter Eben, musique extraordinaire avec des instruments du Moyen-Âge. Attachée d'émission, Brigitte Masson. Merci Brigitte. Lecture des textes, la belle voix de Lara Brulle. À la technique, Éric Boisset. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
My babe goes missing.